Bonjour à toutes et à tous, c'est les chroniques financières sur CFM Rhodes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Steve Bonneau. Salut Steve.
Salut David.
Tout va bien?
Oui.
Bon, écoute, tant mieux. Mieux que les marchés?
Oui, là, il y a un petit... ben, c'est un peu comme les tons. Il y a un coup de déprime, on va dire.
Oui, qu'est-ce qui se passe?
Oh, ben, tu sais, tout le monde est déçu un petit peu par ce qui se passe aux États-Unis. La Fed qui dit que finalement, bon, ils vont pas rehausser les taux, mais ils vont pas non plus les baisser tout de suite.
Mm-hmm.
Voilà, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Et puis, je pense qu'on est dans la période aussi des résultats dans les entreprises.
Ah.
Donc, il y a un peu de prudence.
Oui, parce que alors, moi, je parle des marchés financiers, des actions, comme on dit, la bourse, quoi. Donc là, ouais, c'est pas terrible en France et aux États-Unis, mais il y a aussi de l'or là, qui avait battu des records à je ne sais plus combien,
oui,
2400.
Oui, bah, qui avait baissé aussi.
Ça a un peu baissé.
Bah, le Bitcoin.
Ça. Bitcoin,
aussi,
pareil, il y a un, tout, un peu tout qui est. Il y a
alors,
pas grand
par contre, ce qui est bien, c'est que le pétrole a baissé aussi.
Ah, bonne nouvelle.
Voilà.
Faut que je fasse le plein.
Exactement, t'as tout compris.
Bon, bah, pourvu que ça. De ce côté-là, enfin, en ce qui me concerne, pourvu que ça dure.
Mais, exactement.
Je ne suis pas sûr non plus. Steve, on le rappelle, tu es conseiller en investissement à ICA Finance dans le centre-ville de Rodez.
C'est ça.
Et on va parler aujourd'hui d'argent.
Mais toujours, comme toujours, David.
Comme toujours, oui, mais alors là, peut-être un peu plus directement, enfin, je sais pas, tu as eu envie de parler de la gestion monétaire.
Exactement.
Donc, moi, quand on parle de monétaire, je les vois, les liasses de billets, je vois des billets.
Mais oui, c'est ça.
Bon.
Mais il faut s'y intéresser.
Parce ça, que, ça m'intéresse, oui.
Alors déjà, première raison,
oui.
Quand on laisse l'argent sur un compte courant, il ne rapporte strictement rien.
Ouais.
À toi.
Ah non, à moi, oui.
En revanche,
oui.
À la banque, c'est une autre histoire.
Oui.
Et je te rappelle quand même qu'on est dans un environnement où les taux courts, donc les taux monétaires, sont hauts par rapport à ce qu'ils étaient.
Mm-hmm.
Hein, et que donc, la banque, simplement, elle va prendre d'une main quelque chose qui lui coûte zéro, puisqu'elle ne te paye pas ce que tu as sur ton compte courant.
Mm-hmm.
Et elle va pouvoir le replacer à court terme à des taux qui sont... Ben là, on est presque proche de 4%, un peu moins, mais
ouais,
quand même.
Ouais, d'accord, ouais.
Alors, juste si c'est toi ou moi, ça va. Mais dans la masse, c'est des sommes
ça fait
colossales.
De ça fait beaucoup de sous. Ouais.
Alors, nous, on devrait s'y intéresser, mais les entreprises aussi devraient s'y intéresser, ne serait-ce que pour ça,
mm-hmm.
parce que c'est quand même... un flux quand même des masses monétaires qui sont importantes.
Bah ouais,
Et donc, il y a quand même des choses à faire voilà, pour éviter que ça soit quelque chose qui soit simplement centré sur les profits de la banque.
D'accord.
Je n'ai rien contre les banques,
bien sûr.
Entendons-nous.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, à une époque, il en a été question, il y avait quelques banques qui...
Ah mais légalement, tu peux, la banque peut
voilà,
rémunérer tes
peut.
Comptes courants.
Ouais,
il y a eu un arrêt européen d'ailleurs, en ce sens, je ne me rappelle plus lequel c'est, hein,
ouais.
Mais tu peux, la banque dorénavant peut te rémunérer ton compte courant.
Elle peut, mais elle ne le fait pas.
Exactement.
Voilà, et puis il n'y a personne qui gueule.
Non.
Non.
Bon.
Mais,
voilà.
Tant mieux pour elle.
C'est exactement ça.
Bon, alors, la gestion monétaire, du coup, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait?
Bon, alors écoute, déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des clients de la clientèle, bien souvent, on s'aperçoit que le support par défaut, de toute façon, quel que soit l'objectif que le client peut avoir, c'est le contrat d'assurance vie.
Oui, c'est le grand classique.
Ouais, moi, je trouve qu'il y a bien souvent un écart, en fait, entre ce support et cette enveloppe et la réalité de ce qu'il faudrait faire. Parce que pour les gens, par exemple, qui ont des objectifs de court terme, tu peux très bien avoir des liquidités, en fait, devant toi parce qu'elles sont en attente d'être dépensé pour un achat immobilier ou autre chose.
Ouais. Court terme, c'est quoi? C'est quelques mois, quelques
années? Oui, c'est alors le très court terme, on va dire le monétaire, voilà,
ouais.
C'est entre 0 et 12 mois.
D'accord.
Ok, après, ça du moyen terme et du plus long terme.
Mmh.
Bon. Et on s'aperçoit, en fait, que ces gens-là, en réalité, alors soit c'est par habitude ou parce que peut-être ne connaissent pas non plus les autres alternatives, s'orientent systématiquement vers un contrat d'assurance vie.
Et ou soit c'est parce que quand ils vont à leur banque pour leur dire « Tiens, j'ai de l'argent sur mon compte qui ne sert à rien, qu'est-ce que j'en fais ?»
Tiens, on va ouvrir un contrat d'assurance vie. Voilà.
Ouais.
Alors, bon, dans l'absolu, le contrat d'assurance vie, ok, très bien, c'est devenu un outil pour l'épargnant, mais c'est un outil quand même qui est moyen long terme. Parce que ne serait-ce que pour bénéficier de la fiscalité du contrat,
oui.
Il te faut attendre 8 ans.
Ouais, c'est ça, il me semble qu'il y a un délai avant de...
Donc là, tu vois de suite que déjà, il y a une différence entre l'horizon temporaire qui est nécessaire pour bénéficier de la fiscalité avantageuse du contrat et ton horizon temporaire à toi, puisque tu vas dépenser ton argent d'ici quelques mois.
Eh ouais, ouais, ouais,
tu vois, ou allez, même si au bout de 2 ans, peu importe. Il y a quand même une sacrée différence.
Mais tu veux dire quand même, comme dans le milieu des banques et puis des gens qui ont les moyens d'avoir ces soucis, entre guillemets, bon, le banquier le sait très bien que toi, si tu places pour 2 ans, bah, l'avantage fiscal des 8 ans, tu l'auras pas.
Je suis pas sûr.
Ah ouais, ah ouais.
Je suis pas sûr.
Ah ouais.
Je suis pas sûr parce que, alors là, prendre avec des pincettes, oui. Hein, c'est juste mon ressenti. Hein. Mm-hmm. Mais lorsqu'on écoute les clients parler, en fait, il y a souvent une complainte qui revient, c'est qu'ils se disent, bon, déjà, il y a beaucoup de turnover chez les
conseillers.
Chez les conseillers, donc mm-hmm. ils ne connaissent pas forcément le client et ses besoins.
Ouais.
Mais il y a aussi souvent, alors moi je dis un manque de compétences, mais c'est peut-être un petit peu violent pour les conseillers, mais en tout cas, ils sont très focalisés produits. C'est toujours cette même approche produit,
oui,
de la
oui,
banque,
oui.
Tu vois. Et donc, systématiquement, on va leur dire, bah, vous, quand il y a ce genre de situation, vous placez le produit XYZ au détriment en fait, de la réflexion et de dire, est-ce que pour ce client-là, il ne vaudrait pas mieux que je lui ouvre un compte titre et que je la fasse investir sur des produits monétaires.
Parce que les conseillers bancaires, moi, j'ai jamais eu les moyens de taper dans le haut niveau, mais leur formation, c'est plus une formation commerciale que financière.
Je pense.
Ah bah, je sais, parce qu'il y a des établissements qui font des formations ici sur l'Aveyron, sur le Ruthénois. Et bon, même s'il y a de la finance dedans et de la comptabilité, on est plus dans du commercial que dans l'étude de finance. Hein,
ouais. Pour pouvoir en parler. Et puis alors, deuxième point, je pense, pour la deuxième problématique, lorsqu'on fait faire des investissements même monétaires, ça ne relève pas du même régulateur que l'assurance,
oui.
Puisque l'assurance, c'est la CPR.
Oui.
Et le monétaire, tout ce qui est marché financier,
CPR,
c'est l'AMF.
Alors, le CPR, ça, celui-là, je n'ai jamais entendu.
Ben, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Oh.
En fait, c'est l'autorité qui chapeaute en fait, les banques et les assureurs.
D'accord. Et l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers.
Ouais.
Ça, c'est plus connu.
Donc
que,
là, c'est plus vraiment sur tout ce qui est strictement lié aux investissements financiers.
Ouais, d'accord.
Voilà. Mais c'est pas du tout c'est pas le même parcours. C'est-à-dire que voilà, quand tu fais un conseil financier, et là, tu es en position de conseil, il te faut quand même profiler le client, c'est un peu plus lourd.
Oui, oui.
Tu vois,
oui, bien sûr.
La CPR aussi, mais c'est deux parcours différents, on va dire. Et je pense en fait qu'il y a une plus grosse facilité à avoir des contrats d'assurance vie plutôt qu'à profiler un client et de le mettre sur des produits monétaires comme ça.
Alors justement, ces produits monétaires dont tu parles, c'est quoi ?
Des fonds monétaires.
Ouais, alors c'est quoi des fonds monétaires ?
Ben, en fait, c'est des OPCVM qui investissent en priorité dans des titres court terme. Alors souvent, en fait, c'est des titres de créances négociables, des emprunts obligataires avec très peu de maturité restant à courir.
Donc des emprunts quoi d'État ? Non ?
Ça peut être des emprunts d'État. Oui,
ou d'entreprise.
D'entreprise où il reste 6 mois, 1 an, 2 ans,
ouais,
tu vois, donc du court terme.
Ouais.
Et donc, c'est surtout, en fait, des produits de taux. Parce que tu places, en fait, tu prêtes l'argent et tu gagnes, en fait, des taux d'intérêt.
Oui,
quoi.
Les taux d'intérêt.
Ce que ne fait pas la banque sur ton compte courant.
Où tu n'as pas d'intérêt sur l'argent.
Alors, contrairement à l'assurance vie, qui est beaucoup plus rémunératrice pour la banque aussi.
Ah, c'est ce que j'allais te demander.
Eh bien oui,
ce que tu me dis, je veux bien, mais est-ce qu'il n'y a pas tout simplement le fait que l'assurance vie, ça leur apporte plus que le reste ?
Mais bien sûr.
Ouais.
Mais ceci dit, pour le client, ça devrait pas être l'approche qui convient.
Ah bah non, oui.
Tu vois,
oui.
Parce que ok, tu vas gagner beaucoup moins en fait sur le monétaire, mais c'est un pied d'appel pour ensuite développer la relation.
Oui.
Tu vois, et faire comprendre au client. C'est toujours pareil. Il faut démarrer quelque part. Quelqu'un qui a pas forcément l'expérience des marchés,
oui.
Hein, tu peux très bien lui prendre la main et faire un portefeuille monétaire donc très peu risqué. Puisque ce sont des emprunts qui arrivent à maturité à 6 mois,
oui,
ça lui donne le temps de s'habituer en fait à tout cet environnement et cette terminologie, etc., etc. Et puis après, quand la confiance commence à s'installer, tu peux lui gérer des choses un petit peu plus pas complexes mais plus risquées entre guillemets, dans le cadre desquels tu pourras très bien proposer un contrat d'assurance vie s'il y a cette problématique qui s'inscrit.
Ouais. D'accord.
Tu vois ?
Mais alors là, dans ce que tu nous dis, on met pas mal en cause les banques. Bon, après, tant pis pour elles. Hein, puis ça va, tout va bien quand même pour elles. Hein,
oui.
Grosso modo. Mais il y a aussi en face le client. Ces trucs-là dont tu viens de me parler, enfin, un, on les connaît pas forcément.
Ouais,
deux,
oui,
même quand tu commences à me dire les mots, tu vois, à chaque truc, moi, je te dis, mais ça veut dire quoi ? Tu vois,
Oui. Mais c'est là aussi où le conseiller a un rôle pédagogique.
Ouais.
Tu vois, et c'est ça, en fait, la relation de conseil, c'est ça qu'elle a de très intéressant. C'est qu'elle permet, en fait, aussi aux clients de développer une culture financière petit à petit, hein, dans un environnement sécurisé, hein, et petit à petit, en fait, de passer à l'étape supérieure. Mmh, tu vois, et jusqu'au moment où tu en auras une conversation vraiment enrichissante entre le conseiller et son client sur d'autres types de produits.
Et aussi l'accessibilité. Entre guillemets, ces produits dont tu me parles, ils sont aussi accessibles à n'importe qui, à n'importe quel professionnel que l'assurance vie ou.
Mais bien sûr, c'est des OPCVM monétaires en l'occurrence. Donc il y a des boîtes en fait qui sont spécialisées là-dedans, qui sont très très bien. Sauf que dans la plupart des cas, tu les retrouves pas sur les contrats d'assurance vie. Par exemple, t'en retrouves certaines, ou certains OPCVM, mais pas tous. Alors c'est embêtant. Parce que tout le monde ne performe pas de la même manière au même moment. Voilà. Et donc, nous, ce qui est intéressant, par exemple, chez ICA, c'est qu'on fait une veille de tous les fonds, en fait, qui sont intéressants. Alors, on est outillé, on est équipé pour faire ça.
Il doit y en avoir un paquet, quand même.
Oui, il y en a. On est outillé. Et donc, moi, je tiens une sorte de référentiel de ces fonds. Voilà. Et je regarde systématiquement lesquels de ces fonds-là sont disponibles dans quel contrat pour m'apercevoir qu'in fine, il n'y en a pas des masses.
D'accord.
Bon, sur un contrat d'assurance vie, on pourrait très bien dire, pour du monétaire, on peut substituer le fameux fonds euro. Très bien. En revanche, pour les clients qui n'ont pas d'objectif à terme, au-delà de 8 ans, par exemple, et qui savent très bien qu'il y aura, qui vont vouloir dépenser l'argent d'ici 2 ans, le contrat d'assurance vie, pour moi, c'est pas une solution. C'est d'autant moins une solution que ça coûte. Il y a des frais administratifs, c'est cher, le contrat. Et là, quand tu compares avec un simple dépôt, un simple compte-titre, a fortiori même un compte-titre en ligne, où ça coûte trois fois rien, là, il y a tout intérêt à basculer le client sur un compte-titre.
Alors là, quand tu parles de compte-titre, tu parles aussi des actions, là, l'achat d'actions, d'accord.
Le compte-titre tout simple, en fait, mais qui a un avantage, en fait, de la simplicité. Surtout maintenant, avec les plateformes digitales, c'est extrêmement simple de traiter. Et ça coûte, comme je disais, ça coûte rien, quoi. Et puis, tu as accès à ton compte-titre tout le temps.
Tout le temps.
Tu as ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur.
Et tiens, d'ailleurs, à ce propos-là, il y a quelques jours, alors ça devait venir de presse spécialisée, mais moi, j'ai vu ça dans des grands médias, ils faisaient une étude sur les 30 ou 40 dernières années, les meilleurs placements en fonction, le rendement, les différents placements. Il y avait l'immobilier, il y avait les assurances vie, d'ailleurs, je me souviens. Et puis, il y avait les actions. Et qui gagne ? Paf, les actions.
Mais ça, c'est factuel. En réalité, sur des longues périodes comme ça, c'est normal, c'est les actions qui gagnent le plus. Alors, encore plus aujourd'hui que l'immobilier est devenu relativement compliqué à gérer, surtout en direct, ce sont des biens réels, il faut les maintenir en condition. Le prix des matériaux et des services a explosé. La fiscalité, n'en parlons pas. Les risques, ils sont quand même présents. Donc ça fait beaucoup, et quand tu fais les comptes, tu regardes ce qui te reste en net à la fin de l'année et que tu compares avec des actions. Alors les actions ou les autres titres, il n'y a pas photo. C'est sûr. Et là-dessus, la flat tax est intéressante.
C'est combien?
Les 30%. Attention, c'est 12,8 de fiscalité et 17,2 de prélèvements sociaux. On parle plus. Donc là, c'est vraiment intéressant. Après, je comprends que culturellement, ça fasse un choc où il y a quand même besoin de se familiariser avec ces outils. Parce que comme le disait un client la dernière fois, moi, en bon Aveyronnais, j'achète l'appartement, la pierre, parce que tangible. Ce que je comprends, ce que je comprends tout à fait. Mais passé un moment, il y a aussi le résultat. Il faut regarder ce qui reste à la fin.
Et ça, tu le remets devant les yeux ? Et alors là, il t'a dit quoi, le monsieur? Il a dû dire vous avez raison.
Mais on sent quand même qu'il y a un intérêt. C'est compliqué aujourd'hui de gérer des biens en direct. C'est compliqué. Ça demande du temps, c'est chronophage, ça demande souvent et parfois des procédures quand tu as des mauvais payeurs.
C'est ce que j'allais te dire.
D'accord. Tu n'as pas tous ces problèmes avec les marchés financiers. C'est un autre type de risque, mais il faut les panacher.
Comme tu nous le rappelles souvent, pas tous les œufs dans le même panier.
Voilà.
Bon, alors après, ces histoires de compte-titres, d'achat d'actions, très bien. Mais bon, même si ça va un peu moins bien là, sur les marchés ces derniers jours, globalement, on est sur des plus hauts historiques. Donc, il y a aussi le point d'entrée.
Rappelons-nous ce qu'a dit un des plus grands spéculateurs de tous les temps.
Ah, il savait, c'était qui?
Jesse Livermore.
Ah, ben, je ne connais pas lui.
Non, parce que lui était plutôt du 1900 et quelques.
Ah, d'accord.
Voilà. Okay. Mais c'est quand même. C'est un personnage qui fait un peu référence, si tu veux, sur les marchés. Ouais. Simplement, un marché n'est jamais trop haut pour être acheté ou trop bas pour être vendu. C'est la tendance, en fait, qui va être déterminante.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment. Alors, je te l'accorde, c'est pas du tout de l'investissement. Là, on est plus dans ce qui se rapprocherait du trading.
Ouais, ouais.
Mais quand même, il y a cette voilà.
Ouais, mais la tendance, ça dépend ce que tu quel un peu champ de vision tu regardes. La tendance des trois derniers jours sur la bourse, c'est que ça baisse.
Et oui, mais là, tu parles de jours.
Voilà, nous, mais la tendance sur un an, c'est que ça ou deux
voilà,
ans, c'est que
exactement.
Ça monte.
Ouais, donc, est-ce que tu vas considérer ça comme un point d'entrée? Bah pourquoi pas, si tu veux. Ou est-ce que tu vas considérer ça au contraire, en fait, comme un avertissement où il faut tout sortir, etc. Non. Alors ça, on le fait pas. Parce que, et là aussi, c'est factuel. C'est extrêmement compliqué. Et attention, il y a plein de clients, en fait, qui comprennent pas ça. En disant, oui, voilà, j'ai bien gagné, on va sécuriser, on va mettre de côté. Le problème quand tu fais ça, c'est que, tu sais pas. Déjà, si c'est le moment de sécuriser, ça peut continuer à monter même s'il y a des... Et on l'a vu.
Bah oui, voilà. Les records ont été battus.
Quand bien même tu réussirais à mettre une partie du profit de côté, qu'est-ce que tu en fais?
Ah voilà, oui, d'accord.
Et là, t'as pas intérêt à te tromper.
Oui.
Parce que si tu te trompes de cheval ensuite...
Ce que t'as gagné d'un côté, si
exactement.
Tu peux le reperdre après, c'est... Voilà.
La chose vraiment très importante pour avoir en fait un investissement qui soit rentable... C'est en réalité d'être tout le temps investi, mais tout le temps diversifié et surtout, ne pas se tromper dans la taille de tes paris, entre guillemets. C'est-à-dire combien tu alloues à chaque investissement dans ton portefeuille.
D'accord, ouais, toujours l'histoire de...
Il y a un double paramétrage. Un, le type d'investissement, actions, obligations, monétaire, matières premières, voilà. Et à l'intérieur de ces poches, combien tu mets sur chaque... gérance, chaque titre, etc.
Je suis d'accord, ok. Mais en même temps, placer de l'argent pour au moins ne pas subir l'inflation, voire avoir un peu plus de gains, c'est bien joli, on est content, mais l'argent, c'est, enfin, je veux dire, mourir milliardaire sans avoir rien dépensé, avoir un super compte en banque, qu'est-ce que ça m'apporte? Il faut bien le dépenser, l'argent qu'on a, non?
Ah bah écoute, mais ça c'est intéressant aussi, parce que ce que tu épargnes, l'épargne c'est quoi? En fait, tu décales de la consommation présente vers le futur. Donc, tu vas forcément passer un moment le dépenser. Et si c'est pas toi, ça sera tes enfants ou tes petits-enfants.
Qui s'entretueront pour ça?
Oui, alors bon, on pourra faire une autre émission là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant.
Il y a pas mal de ça, il y a pas mal de choses comme ça.
Mais ce que je veux te dire, en fait, c'est que ça dépend de ton plan d'investissement. Encore une fois, c'est toujours pareil. Si tu as suffisamment d'un autre côté, que ce soit par des salaires, des rentes ou quoi, pour vivre comme tu veux, le surplus... tu vas le mettre de côté, tu vas le faire travailler. Après, ce que tu en feras, ce que tu décideras d'en faire, tu as toujours la main sur ça, en fait.
D'accord. Mais parce que donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il vaut toujours mieux être investi. Voilà.
Il faut toujours être investi. Parce que, on ne sait pas si les marchés vont continuer à monter. On ne sait pas sur quoi réinvestir si jamais on se désengage. C'est très délicat.
Je me suis fait avoir sur des simulations comme ça.
Oui, mais tu
vois. L'argent que j'avais gagné, je l'ai reperdu en. Mais bien sûr. Mon bénéf, je l'ai investi autre chose et puis paf.
En plus, quand tu désinvestis et que tu réinvestis, il y a des coûts.
Il y a des frais. Oui, bien sûr. Donc, les actions, encore et toujours.
Oui,
notamment.
Enfin, en partie.
Notamment.
En partie, voilà. Toujours panaché.
Panaché. Ok. Bon, bah écoute, on va essayer de retenir la leçon. Si, on va la retenir d'ailleurs. Est-ce que tu sens quand même ces derniers temps, avec les marchés qui sont montés très haut, et puis des assurances-vie qui apparaissent moins intéressantes qu'à un moment donné, et pareil pour l'immobilier, est-ce que tu sens quand même que les gens, ils y viennent bon gré, mal gré?
Ils y viennent parce que je pense qu'il y a une... Il y a aussi, en fait, quelque chose qui se distille petit à petit dans la population.
Ouais.
C'est une inquiétude sur les retraites.
Eh ben oui, ça se comprend.
Et ça pousse un peu les gens, si tu veux, à s'intéresser à ces placements.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est très salutaire.
Ouais.
Voilà.
Eh bien, j'ai bien peur que tu aies raison. Merci beaucoup, Steve.
Je t'en prie, David. Merci.
On se retrouve la semaine prochaine.
Ouais, ça marche.